au plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelle et fiction imaginaire, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Marek au micro de CFMA pour le programme suivant. Les mythes de Pearl Harbor. Où est la vérité historique? Puis, mystère autour de la Lune. D'abord, l'alunissage de 1969. Est-il réel? Et les villes et structures ou autres aberrations lunaires. Et on commence avec Crosby, Stills, Nash & Young, un petit peu de musique. L'arbor. 7 décembre 1941. Il est 7h51, heure locale, à Hawaï. Soudain, des dizaines d'avions apparaissent dans le ciel. Ils fondent sur Pearl Harbor, la base américaine située sur l'île d'Oahu. Le soleil rouge qui orne leur fuselage ne permet aucun doute. Ce sont des appareils japonais, bombardiers et torpilleurs, bombardiers piqués et chasseurs. Au total, ils sont 351. En deux vagues, ils pilonnent la flotte américaine et clouent au sol les avions sagement rangés, aile contre aile, sur l'aérodrome militaire. Des croiseurs sont coulés, d'autres bâtiments sont en feu. Au sol, la panique est générale. Des cadavres jonchent le sol au milieu des cratères provoqués par les bombes. Malgré l'effet de surprise, la DCA abat quelques appareils ennemis qui s'écrasent en mer. À 10h, les derniers assaillants s'éloignent dans un ciel noir de fumée et regagnent les 6 porte-avions qui les ont transportés. Le bilan est lourd. 2403 Américains, soit 68 civils, ont perdu la vie. 198 avions ont été réduits à l'état d'épave et 18 navires, dont plusieurs croiseurs, ont été touchés. Les Japonais triomphent, ils ont infligé un désastre sans précédent à la flotte américaine. À Washington, le président Roosevelt condamne avec la plus grande fermeté cette infamie commise avant même toute déclaration de guerre. Dès le lendemain, le Congrès, à l'unanimité, moins une voix, l'autorise à entrer en guerre contre l'Empire du Levant. Pearl Harbor sera vengé. Les premiers sondages l'indiquent. Le peuple américain traumatisé approuve cette déclaration de guerre à une très grande majorité. Pourtant, 6 mois plus tôt, ces mêmes Américains s'étaient prononcés à 76% contre l'entrée en guerre de leur pays. D'où cet inévitable soupçon qui débouchera sur plusieurs enquêtes officielles et donnera matière à de nombreux ouvrages historiques. Sachant son peuple hostile à la guerre, le président états-unien n'a-t-il pas délibérément tendu un piège aux Japonais en se servant de l'appât que constituait Pearl Harbor? Une accusation certes très grave, car si cette hypothèse était vraie, elle signifierait que Roosevelt a sacrifié plus de 2000 vies pour obtenir, enfin, que les États-Unis entrent en guerre, ainsi qu'il le désirait depuis fort longtemps. Naturellement, tous les complotistes et autres conspirationnistes qui pullulaient déjà aux États-Unis ont repris à leur compte cette version machiavélique. Et il faut bien reconnaître que leur dossier est troublant, sinon convaincant. En août 1940, le Japon, toujours plus belliqueux, s'empare de l'Indochine française. Le président Roosevelt décrète aussitôt un embargo sur les exportations de fer et de métaux à destination de l'archipel japonais. En même temps, il décide d'accroître l'aide militaire à l'armée chinoise qui résiste à l'invasion de son territoire par les troupes nippones. Le président états-unien n'aura alors de cesse de multiplier les mesures économiques de rétorsion contre Tokyo, en essayant en particulier de bloquer ses indispensables approvisionnements en pétrole. Mais n'était-ce pas une provocation destinée à pousser les Japonais à attaquer les États-Unis? Franklin Roosevelt, même si les discours qu'il destinait à ses concitoyens étaient faussement apaisants, savait que la conflagration en Extrême-Orient était inévitable. Mais, tout en dénonçant les régimes totalitaires, il avait été réélu en 1937 en promettant à son pays de lui épargner la guerre. À moins, bien sûr, que les États-Unis ne fussent victimes d'une agression. Et on y vient. On peut donc imaginer qu'il attendait avec une impatience certaine qu'éclata l'incident qui lui permettrait d'obtenir du Congrès une déclaration de guerre et d'engager la lutte contre les puissances de l'Axe, Allemagne, Italie et Japon. Ce que lui réclamait ardemment le premier ministre britannique Winston Churchill. En juillet 1941, le bellicisme nippon franchit un nouveau pas en concentrant une force d'invasion de 30 000 soldats au sud de l'Indochine. Les stratèges américains pensent alors que l'armée impériale va tenter de s'emparer des champs pétroliers des Indes orientales néerlandaises, l'Indonésie. Roosevelt réplique en gelant les avoirs japonais aux États-Unis et en renforçant les mesures d'embargo. Objectif visé, mais parfaitement irréaliste. Le renoncement du Japon à ses conquêtes territoriales. La tension monte encore d'un cran, mais la rupture n'est pas totale. Même si de chaque côté on se prépare. Les Américains n'en ignorent rien. Les services de renseignement de l'armée états-unienne ont réussi à briser le code secret nippon qui chiffre les télégrammes diplomatiques. Ils savent donc, depuis janvier 1941, que sous l'autorité de l'amiral Yamamoto, les Japonais envisagent une attaque surprise massive contre l'une de leurs bases. Dans cette attente, la flotte de guerre américaine est transférée de San Diego, en Californie, à Pearl Harbor. Mais où aura lieu l'agression? Pour des raisons géographiques, la distance à parcourir, les cibles les plus évidentes seraient les Philippines ou l'île de Guam. Mais bientôt, un homme va fournir une information de première main. Il s'appelle Dusko Popov. D'abord recruté par la BWR. Alors, la BWR, c'est le service de renseignement de l'armée du Troisième Reich, dirigé par l'amiral Kanaris. Ce playboy fortuné d'origine serbe a rapidement épousé la cause des Britanniques par haine du nazisme et offert ses talents à l'Intelligence Service. Il a été affecté au comité Double Cross, une structure chargée de retourner les espions allemands afin de procéder à des manœuvres de désinformation. Au cours de l'année 1941, son officier traitant allemand lui demande d'effectuer un travail d'enquête sur la base de Pearl Harbor. À cet effet, il lui remet un véritable questionnaire qui a été établi par le service de renseignement japonais. Détail piquant, ce document a été photographié et miniaturisé selon une méthode que les techniciens de la BWR viennent de mettre au point et qui est promise un grand avenir dans l'histoire de l'espionnage, le micro-point. D'autre part, Popov a appris par l'un de ses amis allemands que les services japonais ont demandé à leur homologue du Troisième Reich un rapport sur une brillante opération effectuée en novembre 1940 par l'aviation britannique. Le bombardement de la flotte italienne amarrée dans le port de Tarente. La juxtaposition de ces deux informations peut donc laisser penser que les Nippons entendent réaliser à Pearl Harbor ce que la Royal Air Force a réussi à Tarente. Popov, qui a naturellement tenu au courant ses supérieurs britanniques, est invité par ceux-ci à se rendre aux États-Unis le plus vite possible. Il est muni des accréditations nécessaires pour entrer en contact avec le FBI, le seul service officiel de renseignement existant alors outre-Atlantique. En effet, l'OSS, ancêtre de la CIA, ne sera créé qu'après l'entrée en guerre des États-Unis. À charge pour l'agent double de transmettre aux Américains les renseignements vitaux qu'il a recueillis. Ici, il faut s'étonner. Les dirigeants du comité Double Cross n'ont certainement pas gardé pour eux les informations fournies par Popov, évidemment. S'ils ont transmis au gouvernement britannique, n'aurait-il pas été plus simple que celui-ci mette aussitôt en garde la Maison Blanche sur les menaces qui pesaient sur Pearl Harbor? À moins que Churchill ait gardé sciemment le silence en espérant qu'une agression japonaise contre les États-Unis précipiterait leur entrée en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne. Ah oui, on est dans du cynisme meurtrier. À New York, l'accueil réservé à Popov est méfiant. Son contact au FBI lui affirme que seul son patron, le légendaire Edgar Hoover, est en mesure d'apprécier l'importance des informations qu'il apporte. Mais justement, le chef du FBI est en vacances. Popov s'impatiente. Le temps presse. Quand enfin l'agent double est reçu par Hoover, ce dernier le prend de haut. Patron du tout-puissant FBI, il n'a nul besoin des services de ce playboy douteux qui mène une vie amorale selon les informations qu'on lui a fournies. Bref, Popov, qui n'est tout au plus qu'un rastaquaire aux yeux de Hoover, est vite mis à la porte. Il reste toutefois que le chef du FBI, malgré son hostilité, a été intéressé par la technique du micro-point et qu'il a eu en main un exemplaire du questionnaire sur Pearl Harbor. Qu'en a-t-il fait? Son accès de colère passé, a-t-il pris conscience de son importance? Et dans ce cas, a-t-il rendu compte au président Roosevelt? Nul témoignage, nul document ne l'atteste. Le doute demeure. Il a été abondamment exploité par tous ceux qui croient la duplicité du président américain. Il n'est jusqu'aux graves négligences des chefs militaires qui commandent à Pearl Harbor le général Short et l'amiral Kimmel pour accréditer cette thèse. Le 27 novembre, l'état-major les informe qu'une attaque japonaise est possible dans les jours à venir. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne croit que Pearl Harbor sera la cible choisie. Une quasi-certitude confirmée par l'analyse du trafic radio des forces japonaises. Tout indique que l'agression aura lieu sur une base plus proche du Japon. D'ailleurs, ces deux chefs n'imaginent même pas que la menace puisse venir du ciel ou de la mer. Ce qu'ils craignent par-dessus tout, ce sont des actions de sabotage terrestre. C'est pourquoi il a été ordonné que les avions soient parqués les uns contre les autres afin de faciliter la surveillance. Le 2 décembre, Kimmel s'entretient avec son officier de renseignement. Celui-ci s'interroge. Les porte-avions nippons respectent un silence radio total. On ignore donc leur position, remarque l'amiral. Qui ajoute avec un demi-sourire, « Vous voulez dire que même s'ils étaient en train de doubler Diamond Head, un cap à l'est de Honolulu, vous ne le sauriez pas ?» L'officier fait « Oui ». Mais Kimmel ne semble pas autrement inquiet. Le lendemain, un câble de Washington avertit l'amiral. Les diplomates japonais en poste dans la capitale fédérale ont reçu l'ordre de détruire leur code. C'est le signe qu'une attaque est imminente. Kimmel ne bronche pas. Il omet même de transmettre cette information à son collègue Short. Et n'aurait-il pas dû s'interroger sur le départ de 3 porte-avions américains basés à Pearl Harbor sur décision de l'amirauté? Si l'amiral Kimmel semble particulièrement insouciant, en aucun moment il n'a envisagé de déployer les filets par torpille, et il en va de même pour le général Short. Celui-ci néglige la surveillance radar de Pearl Harbor, car il n'a pas confiance dans ce nouveau système. Il n'a pas non plus ordonné de camoufler les réservoirs de carburant, ni même de veiller à ce que les batteries de DCA soient approvisionnées en munitions. Curieux quand même. Après la guerre, ces deux chefs ont fait l'objet d'ailleurs d'une enquête. Il leur a été reproché l'état d'impréparation dans lequel se trouvait la base de Pearl Harbor. Mais si finalement aucune charge n'a été retenue contre eux, c'est en filigrane l'autorité politique qui a été mise en cause. À commencer par le président Roosevelt, coupable de n'avoir pas commandé les travaux nécessaires pour sécuriser la base. Mais n'était-ce pas pour inciter les Japonais, parfaitement informés grâce à leurs espions locaux, à lancer leur raid contre Pearl Harbor? Et pourquoi avait-il été ordonné aux 3 porte-avions américains de prendre la mer quelque temps avant l'agression japonaise? Parce que la Maison-Blanche, qui n'ignorait rien des intentions de Tokyo, voulait sauvegarder ses précieux bâtiments qui seraient plus tard les principaux outils de la future victoire de sa marine dans le Pacifique. Pourtant, le véritable mythe de Pearl Harbor se trouve ailleurs. Il faut d'abord savoir que l'attaque surprise de l'aéronavale japonaise a provoqué une intense émotion aux États-Unis, un choc peut-être encore plus important que celui du 11 septembre 2001, mais surtout une humiliation sans précédent pour l'oncle Sam. Ah oui. Car au-delà du terrible désastre humain, il y avait aussi l'impressionnant bilan matériel. C'était le cœur de la flotte états-unienne qui avait été frappé. Tel était en effet l'avis général et le ton des commentaires. Et aujourd'hui encore, on peut lire sous la plume d'historiens réputés que les 3/4 de la puissance militaire maritime américaine avaient été anéantis. Et de citer des chiffres impressionnants, plus de 80 navires auraient été touchés. Dans un récent documentaire, la BBC, réputée pour son sérieux, a même fait état de 118 bâtiments coulés ou endommagés. Ces appréciations ont été à l'époque largement reprises par la propagande japonaise, qui ne pouvait que se réjouir de constater que son aéronaval avait porté un coup si dur à son ennemi. Mais rien n'était plus faux. Je répète, rien n'était plus faux. La réalité est celle-ci. 18 bâtiments ont été atteints par les bombes ou les torpilles japonaises. 3, dont 2 cuirassés vieillissants et un bateau cible, ont été coulés. Parmi les 15 autres, 10 ont été aussitôt réparés et ont pu reprendre le combat dès 1942. La flotte américaine n'est donc nullement défaite. Mieux, le gouvernement américain qui jugeait la guerre inévitable avait pris les devants. 7 cuirassés, 6 supercroiseurs lourds, 18 porte-avions, 27 croiseurs, 115 destroyers et 43 sous-marins avaient été commandés et étaient déjà en chantier dans les arsenaux du pays. Une formidable armada qui allait infliger de lourdes pertes à la flotte nippone 7 mois seulement après le raid de Pearl Harbor. Enfin, pour faire justice des accusations de duplicité de Roosevelt, il faut citer un membre de la sécurité de la Maison-Blanche qui se trouvait dans le bureau présidentiel lors de l'annonce de l'attaque de Pearl Harbor. D'une façon assez pittoresque, il décrit ainsi la réaction de Franklin Roosevelt, je cite, son menton s'avançant de 2 pieds environ au-delà de ses genoux, donc il se penche en avant, et on avait là devant nos yeux le Hollandais, le plus en colère qu'on ait jamais vu. Oui, parce que Roosevelt était d'ascendance hollandaise. Fin de citation. Voilà ce qui concerne donc ces mythes de Pearl Harbor. Nous allons faire une pause musicale, on se détend, c'est la soirée, on est tranquille et on se retrouve pour la deuxième histoire.
Thank you.
Vous êtes bien sûr CFM Radio 90.2 au plus profond des ondes. Émission un petit peu mystérieuse. D'ailleurs, en parlant de mystère, je vous parlais de, un petit peu des mystères du cosmos. Nous aborderons l'alunissage de 1969 et quelques aberrations lunaires. Oui, notre satellite peut-être recèle des secrets et des mystères. Depuis la nuit des temps, l'humanité a interrogé et étudié l'univers. Grâce à d'immenses avancées technologiques qui nous ont permis de nous aventurer dans ces vastes espaces inexplorés, nous avons maintenant atteint un stade où nous pouvons tenter de percer certains de ces grands mystères. Chaque pas vers une plus grande connaissance soulève des questions plus difficiles, certaines d'une complexité ahurissante. Malgré cela, certaines personnes ne croient pas que la destinée de l'humanité repose au-delà des confins de notre propre planète. Et abordons un premier mystère du cosmos qui nous touche un peu directement puisqu'il s'agit d'une courte distance stellaire entre la planète Terre et la Lune. Nous allons parler du fameux alunissage de 1969. Le 20 juillet 1969, comme tout le monde le sait, le monde a été hypnotisé par les images montrant les astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin faire leur premier pas historique à la surface de la Lune. Alors que les politiciens et les hommes d'État félicitaient les États-Unis, les populations furent inspirées par cet incroyable exploit. On en parla comme de la plus grande réalisation humaine de tous les temps, et on croyait que cela entraînerait une nouvelle ère, l'âge spatial, faite de bases lunaires, de colonies, d'expansion à travers notre système solaire. Pourquoi alors, quelques décennies plus tard, rien de tout cela ne s'est réalisé? Bon, on manque de pognon, mais c'est pas le seul souci. Pourquoi l'humanité n'est-elle plus retournée sur la Lune depuis plus de 30 ans? Se pourrait-il que l'homme n'y ait en réalité jamais mis le pied? Je répète cette question. Se pourrait-il que l'homme n'y ait en réalité jamais mis le pied? Bon, développons. Presque aussitôt après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique sont entrés en compétition pour envoyer un homme sur la Lune. Les deux camps travaillèrent dur et longtemps dans leur quête pour leur victoire. Ils semblaient n'avoir aucun scrupule à utiliser la connaissance accumulée par les scientifiques nazis pendant la guerre afin d'atteindre leur objectif, dans la mesure où le gagnant obtiendrait un capital politique important. L'URSS réalisa, comme vous le savez, une série d'avancées, prit la tête avec le programme Sputnik et expédia le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Pendant une très longue période, la victoire communiste semblait inévitable. Le programme spatial américain subissait une série de revers désastreux que nous ne développerons pas ici. Cependant, la fortune s'inversa et ce furent les États-Unis qui connurent la gloire de fouler le sol lunaire et d'y planter leur drapeau. Ou bien, ils ne l'ont pas fait. Ce qui était auparavant considéré comme un fait indiscutable est maintenant plus souvent perçu comme un mystère, voire une conspiration. Ah, nous y voilà. Beaucoup d'experts qui ont étudié le film du premier alunissage ont suggéré qu'il s'agissait en fait d'un faux. Mais a-t-il vraiment été possible de falsifier les images et de conserver le secret pendant si longtemps? Cela serait un exploit presque aussi difficile que d'atteindre la Lune elle-même, et il faut dire que personne n'a jamais revendiqué avoir été impliqué dans une telle machination. Néanmoins, de nombreux sceptiques avancent encore certaines preuves convaincantes à l'appui de leurs arguments. Tout d'abord, les sceptiques se méfient du secret qui entoure le programme spatial. Considère la restriction de l'accès aux faits comme de la rétention de preuves et le signe avéré de l'existence de la conspiration. Les seuls faits dont nous disposons sont les vidéos largement diffusées de deux astronautes qui accomplissent leur tâche à la surface de la Lune. Or, c'est cela qui a éveillé la plupart des allégations de manipulation. Beaucoup ont argué qu'elles présentaient assez d'erreurs et d'incohérences pour constituer une preuve de la falsification. Le premier, le plus célèbre de ces soupçons concerne le drapeau américain. La vidéo montre les astronautes qui plantent le drapeau à la surface de la Lune et la bannière étoilée claquant au vent alors qu'ils luttent pour la maintenir droite. Ce qu'il y a de particulier, c'est que même après que le drapeau a été fermement positionné, il continue à bouger comme si le vent soufflait dessus, un scénario impossible, étant donné l'absence de toute atmosphère sur la Lune. Les théoriciens de la conspiration ont avancé que le mouvement était en fait causé par une sorte de ventilateur situé à l'intérieur du studio de photographie, utilisé pour créer ces fausses preuves. Le contre-argument serait que le drapeau mouvant indique bien, après tout, une atmosphère sur la Lune, même si, en l'état de nos connaissances actuelles, cela semble fort improbable. Il est peut-être plus difficile d'éluder la controverse relative à la surface lunaire et aux cratères explosifs. Les photographes d'Apollo ont clairement montré que le paysage lunaire est recouvert d'une grande quantité de poussière. Cela est évident sur les nombreuses photos des empreintes des astronautes et les images plus tardives de traces de pneus du revers lunaire. Des échantillons de poussière et de roches ont même été exhibés au retour de la mission. Bien. Lorsque le vaisseau d'atterrissage lunaire s'est posé, il a contrôlé sa descente grâce à un puissant lance-roquette qui agit comme un frein pour l'empêcher de s'écraser. Sous l'ULM. Les photographies auraient donc dû révéler une grande quantité de poussière déplacée par le module, ou au moins un petit cratère en dessous. Or, après examen des photos du site d'alunissage, on constate que la surface lunaire n'a pas été dérangée. Aucune marque de brûlure nulle part, et la zone autour du module semble intacte. Le vaisseau a l'air propre et reluisant, sans aucune trace d'une quelconque installation à la surface, et même les pieds du module sont propres alors qu'ils reposent sur une grande quantité de poussière lunaire. Bizarre. Un troisième motif de controverse au sujet de ces photographies concerne les ombres visibles. Alors que sur la Lune, il n'y a qu'une seule source de lumière, le Soleil, des incohérences dans les ombres captées sur ces photos suggèrent la présence de plusieurs sources d'éclairage. Par exemple, on peut voir converger ou s'entrecroiser certaines ombres de roches et d'objets, ce qui ne pourrait jamais arriver si toute la lumière venait d'un seul point. Sur une autre image, les ombres d'Armstrong et Aldrin apparaissent de longueurs différentes, ce qui suggère à nouveau que plus d'une source de lumière est mise à contribution. Sur un cliché révélateur, à la fois l'astronaute et le vaisseau lunaire sont visibles alors que le Soleil ne les illumine que d'un côté. Par ailleurs, ce cliché particulièrement patriotique montre l'astronaute non seulement saluer le drapeau américain, mais aussi posé à côté du module lunaire qui arbore également le drapeau ainsi que les mots « United States ». Disons-le de suite, les ténèbres d'une ombre lunaire devraient être d'un noir d'encre. Néanmoins, le drapeau et les mots sont très visibles du côté sombre du vaisseau, ce qui n'est pas possible. Les théoriciens de la conspiration arguent que ces irrégularités d'éclairage et le mouvement du drapeau sont des preuves que le film n'a pas été fait à la surface de la Lune, mais plutôt dans un studio quelconque, quelque part, sur Terre. En outre, chacune des photographies montre un ciel particulièrement noir. Or, en l'absence de toute atmosphère sur la Lune, les étoiles devraient être visibles depuis sa surface. Bien que le paysage lunaire, l'équipement nécessaire et même l'apparence d'une faible gravité aient pu être reproduits par les équipes d'effets spéciaux d'Hollywood, il aurait été impossible de reproduire une représentation astrologique exacte d'un ciel étoilé. Par conséquent, les preuves que l'homme n'a peut-être pas marché sur la Lune, je souligne la nuance « peut-être pas », sembleraient bien exister. Et pourtant, même si ces preuves étaient vérifiées, l'hypothèse que l'homme ne soit pas du tout aventuré dans l'espace semble improbable. Les communications mondiales reposent sur des satellites en orbite autour de la Terre, à des altitudes variées, ce qui implique le voyage spatial. Une grande partie du travail réalisé aujourd'hui en astrophysique et en astronomie est dirigée à partir de télescopes en orbite comme Hubble, qui existent en dehors de l'atmosphère terrestre. Bien, encore une fois, la technologie requise pour mettre ces instruments en orbite a été développée dans la course spatiale qui a culminé avec les alunissages. Une des hypothèses cyniques sur les raisons possibles de feindre ces derniers est qu'il détournait l'attention du public de la guerre du Vietnam. Il faut comprendre le contexte historique. Alors que la course aux alunissages battait son plein, l'opposition à la guerre augmentait, ainsi que le niveau d'échec militaire. En alunissant, les États-Unis pouvaient crier victoire, au moins sur le terrain scientifique. Il est intéressant de noter que les vols habités vers la Lune ont cessé à peu près au même moment que la guerre du Vietnam. Une théorie complètement alternative mélange les idées de conspiration et de trahison. Fondée sur la croyance qu'il y a des structures artificielles inhabituelles et même des villes construites sur la Lune, et peut-être aussi sur Mars, elle suggère que les vidéos des alunissages publiquement diffusées étaient une façon de dissimuler la nature incroyable de ce qu'on trouvait en fait là-bas. Avec les avancées technologiques qui ont eu lieu ces dernières décennies, peu doute que l'humanité pourrait aujourd'hui réussir à atteindre la Lune. La question de savoir cependant si cela a été réalisé en 1969 est encore discutable pour certains. En fait, il est peut-être nécessaire d'expédier une nouvelle équipe sur la Lune pour prouver que le drapeau flotte encore. Jusqu'à ce que cela arrive, il semble probable que notre satellite restera une énigme fascinante et le voyage spatial, rien de plus qu'un rêve pour l'humanité. Que croire ? Je vous ai parlé peut-être d'aberration de structure sur la surface de la Lune. Abordons cet aspect. Des villes lunaires, ou du moins des structures. Les deux grandes théories avancées pour expliquer l'existence de la Terre découlent d'un côté des notions religieuses de création et de l'autre d'idées scientifiques comme le processus de l'évolution. Et une troisième théorie gagne cependant du terrain dans l'esprit de beaucoup de gens qui attendent juste que d'autres explorations spatiales et progrès technologiques viennent leur donner raison. Ils croient que la vie humaine a en fait pris son origine sur une autre planète que la Terre, et remonta bien plus longtemps que l'on ne pense habituellement. C'est de la spéculation, bien sûr. Elle mérite d'être citée. La découverte du visage, entre guillemets, de visage humain de Mars en 1976, apparemment en relief géologique qui ressemble donc à un visage humain, a été accueilli avec un grand enthousiasme et a déclenché des recherches approfondies relatives à la possibilité d'une vie extraterrestre à l'intérieur de notre propre système solaire. Alors que beaucoup d'enthousiastes se sont focalisés sur l'examen des photos de la surface martienne, certains ont porté leur attention sur d'autres régions de notre galaxie. Ils ne s'attendaient pas à des découvertes aussi incroyables. Des scientifiques comme Richard Hoagland, l'astronome américain qui a initié cette recherche, ont décidé d'analyser le seul autre corps de notre système solaire sur lequel nous possédons une information détaillée, c'est la Lune, notre satellite. Par sa fine analyse des photographies de la surface lunaire, il a découvert plusieurs particularités qui semblent avoir été survolées par l'establishment scientifique. Survolé ou ignoré sciemment. Sur certains clichés, on voit clairement des structures dont l'origine naturelle semble fortement improbable. La première d'entre elles est apparue dans les cratères Trias-Necker et Ukert, créés par des impacts de météorites. Dans le périmètre du cratère Ukert, on voit, dans l'ombre, sans l'ombre d'un doute, l'image d'un triangle équilatéral. L'une des fondations même de la géométrie est pratiquement impossible à expliquer comme phénomène naturel. Chaque côté du triangle est long de 26 km et on peut le voir depuis la Terre lors d'une pleine lune avec seulement un petit télescope. Impressionnés par cette découverte, les astronomes ont scruté les vidéos lunaires existantes à la recherche d'autres anomalies. Pour beaucoup de gens, l'existence même de cette figure géométrique est en effet la preuve d'une certaine forme de vie intelligente. Si d'autres pouvaient être trouvés, alors peut-être qu'on se déciderait à rechercher les habitants de la Lune. Oui, cela prête à sourire. L'inspection de la surface lunaire a donc continué. Toutes les zones intéressantes semblaient situées dans cette partie connue des astronomes sous le nom de Sinus Medii, baie centrale en latin. Et si on pouvait observer une lune pleine, elle correspondrait à la région autour du centre du disque visible. À l'intérieur de cette zone, les enquêteurs ont été attirés vers une étrange protubérance connue comme l'écharde. Ce trait géologique est remarquable car il se dresse en continu depuis la surface de la Lune sur une hauteur de plus d'un kilomètre, dans un paysage autrement clairsemé et plat. Les formations les plus étranges qu'on ait détectées sur la surface lunaire sont peut-être celles qui apparaissent sur une des photographies prises pendant la mission Apollo 10. Sur le cliché numéro 4822, on peut discerner une structure qui apparaît flottante à quelques kilomètres de la surface de la Lune. Cette configuration est connue sous le nom de la tour, car elle est en forme de cube à son sommet. Certains sceptiques ont argué que cela devait faire partie de l'appareillage de la sonde de la mission, puisqu'un tel objet défierait les lois de la physique. D'autres, cependant, sont plus enclins à envisager des théories moins conventionnelles et croient que cette structure est une preuve solide de l'existence d'une cité lunaire passée. C'est ce dernier groupe qui est particulièrement intéressé par d'autres clichés de la NASA, sur lesquels on peut voir des abîmes traversés par un certain nombre de ponts. S'il n'est pas impossible de l'expliquer uniquement par la géologie, la proximité de tels ponts avec ce qu'on a décrit comme des villes lunaires en ruine, pourrait suggérer qu'ils ont été construits pour faciliter le transport. En étudiant ces photos, certaines personnes ont aussi prétendu que les vestiges d'un dôme colossal sont visibles. Il contient apparemment une sorte de motif grillagé, comme s'il avait abrité une cité lunaire. À une certaine époque, bien sûr. En utilisant un système de datation établi sur le nombre de cratères récents dans la zone, on a estimé que le site a été ruiné il y a environ un demi-milliard d'années. Beaucoup de gens croient que la véritable étendue des découvertes lunaires, ainsi que les preuves rassemblées à la surface de Mars, ont été dissimulées par le gouvernement. Et toc, on retombe dans la conspiration. Ils prétendent que le montage photographique diffusé au public a été d'une certaine manière élaboré pour dissimuler la vérité. Qui croire? Ces prises de position, cependant, n'ont pas été accréditées par les scientifiques ou la NASA, qui attribuent la forme des objets eux-mêmes à des bizarreries géologiques et à des défauts photographiques. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, quels que soient les arguments, il semble possible de dire qu'avec l'avancée de la technologie, il sera bientôt possible à tout un chacun d'utiliser son propre télescope pour scruter en détail les corps célestes de notre système solaire, en particulier la Lune et Mars. Il est probable que tous seront bientôt capables de se forger leurs propres opinions sur ces mystérieuses structures et leurs possibles origines. Cela donnerait certainement à l'humanité beaucoup à penser si on pouvait prouver que l'une de ces théories est fondée sur des faits solides. Donc pour le moment, le flou demeure. L'interprétation est peut-être subjective. Mais comme je vous avais expliqué dans une dernière émission, les photos de la NASA ont certainement été un petit peu floutées ou retouchées. Voilà, je vous renvoie à une de mes dernières émissions il y a à peu près un trimestre de cela. Donc que croire ? Voilà, sans tomber dans la théorie conspirationniste, bien sûr, on peut se poser des questions sur l'origine véritable de l'homme, son passé, ses origines et sa destinée. Allez, je vous dis ciao, bonne soirée et à la semaine prochaine.
Pink, where all the Boy Scouts stop to think they'll be coming back again. Those nasty, grumbly grimblies, and they're climbing down your chimney. Yes, they're trying to get in. Come to take your money, isn't it a sin? They're so thin. There's back pockets in the sky. Don't leave your dad in. Fingers and your toes, and when it's dark, our boat will park on the land of warm and green. Pick our fill of punk weed and smoke it till we bleed. This all we'll need. We're sailing back in morning light. We'll wash our teeth in the sea. And when the day gets really drinking till we bleed, that's all we